Je me trouve actuellement donc avec David Serrero, qui est le réalisateur du film Rocancourt, le film. Et donc, David, bonjour.
Bonjour, cher David.
Bienvenue à la Radio du Cinéma.
Merci, je suis tellement
Alors,
honoré.
Alors, je viens d'assister à la projection du film. On va évidemment en débattre et en parler. Mais au préalable, j'aimerais que vous vous présentiez aux auditeurs de la radio. Mm-hmm. Donc, si vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît.
Ben, avec grand plaisir. D'abord, je tiens à vous dire que je suis honoré d'être sur votre radio. Radio du cinéma, on ne peut pas faire mieux. Vraiment, merci. Tout simplement, je suis à la base chanteur d'opéra. J'aime le spectacle. J'aime jouer le théâtre classique, l'opéra, et de là est venue la mise en scène, la production de spectacles. Et naturellement, je suis venu à la mise en scène pour la caméra, à l'écriture, au film, à la production. Et je me suis servi en fait de mes techniques de producteur de spectacle pour les aborder dans le film.
Évidemment, ce film n'est pas votre premier opus. Vous avez eu l'occasion d'en commettre bien plus au préalable. Peut-être vous pouvez nous détailler un petit peu ça.
Avec plaisir. Le premier en fait, film que j'ai fait, ça date du Covid. Parce que je produisais des spectacles, j'étais vraiment dans le spectacle. Je savais que j'allais aller dans le film. Et puis tout d'un coup, Covid, plus de spectacles. Et donc je me dis, bah tiens, je vais en profiter pour faire le film que je veux faire. Et il y avait ce créateur de mode, Eli Tahari, qui est très connu aux États-Unis et inconnu en France, qui vraiment me passionnait. Et j'avais envie de faire un film sur lui, un documentaire sur lui. Donc du coup, on a fait le film sur lui, qui a été tout de suite un gros succès, qui a été sélectionné dans plus d'une centaine de festivals, qui a gagné des dizaines de prix. Et donc, ça m'a ouvert vers d'autres films.
Comment est-ce qu'on arrive finalement, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, vous êtes quand même très autonome dans le cadre de ce type de projet, vous produisez la quasi-totalité du projet dans son ensemble, le montage, la captation, etc. etc. Votre équipe finalement, c'est une équipe très légère. Mm-hmm. Ça finalement, c'est né en vous de quelle manière au mm-hmm. tout départ?
Comme dans le spectacle, hein, j'ai repris un peu la même recette, c'est-à-dire où j'écrivais les pièces, je les mettais en scène, je les produisais, j'en faisais la promotion et également je jouais un des premiers rôles. Je faisais le casting, etc. Je faisais les costumes, les décors, les accessoires, je faisais tout ça. Et donc après, dans le film, c'est devenu un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé à filmer, à faire moi-même, j'ai appris à faire le montage. J'ai eu quand même la chance que pendant le Covid, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc j'avais la patience d'apprendre et tout. Et je me suis trouvé une passion pour le montage. Vraiment.
Au fond, le Covid a révélé votre, on va dire, attirance forte pour le cinéma.
Complètement.
Et finalement, c'est une autre carrière qui est en train de démarrer.
Bon, alors, pour info, moi, j'avais l'habitude du cinéma. Parce que je jouais en tant qu'acteur, j'ai fait plus d'une centaine de films. Donc j'avais l'habitude des caméras, j'avais l'habitude de tout ça.
Là, on parle des États-Unis.
On parle des États-Unis.
Puisqu'en fait, on y viendra tout à l'heure, mais vous vivez entre la France et les États-Unis.
Exactement.
Mais en gros, on vous connaît plus aux États-Unis aujourd'hui qu'en France.
Complètement.
Donc finalement, là, ce film est aussi une porte d'entrée un peu officielle et médiatique pour vous révéler auprès du public français.
Complètement.
Mais pardon, j'extrapole un tout petit peu, mais j'aimerais qu'on revienne, s'il vous plaît, sur votre parcours de réalisateur, puisque vous avez créé ce film et finalement, vous en avez fait 5 avant. Vous pouvez peut-être un petit peu en parler.
Bien sûr, j'ai fait donc le premier film sur Eli Tahari, le créateur de mode. Le deuxième, il a été sur Lisa Zuelos, la réalisatrice. Donc là encore, un autre exercice, que vous faites un film sur une réalisatrice. Et donc ça, c'était le deuxième. Et sur le troisième film, c'était sur un autre réalisateur qui s'appelle Eli Chouraki, que je n'ai pas sorti encore, mais dans lequel j'ai Claude Lelouch, enfin j'ai des grands noms. Et puis j'en ai un sur le sculpteur Richard Orlinski, vous savez, celui qui fait les contres et tout ça.
Et, le maître de la résine.
Voilà, ouais. Donc c'est des films complètement différents. Et surtout, j'ai un film sur la pianiste Hélène Grimaud. Vous voyez, pianiste classique avec les loups, tout ça. Donc c'était des films complètement différents, des personnalités complètement différentes, des styles de montage complètement différents, mais à chaque fois, une émotion, on ne s'ennuie pas, je me lasse très vite, vous voyez. Et la même technique que j'utilisais dans la scène, c'est-à-dire où je travaille beaucoup avec les tests, c'est-à-dire je teste beaucoup avec les gens, et je les regarde, ils s'ennuient, ils regardent le portable, ils sont machin, je sais où couper et j'écoute les critiques. Vous voyez, les choses que les gens me disent, après, je dis, ah oui, d'accord, ok, je vais changer. Donc, c'est la chance que j'ai d'avoir le film dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'on me dit un truc, tout de suite, j'allume l'ordinateur, boum, 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 et le lendemain, je livre le DCP au cinéma. j'envoie un nouveau lien, je les rends fous, parce que à chaque séance, presque, je la ramène à nouveau DCP, mais le film est en rodage, comme un spectacle est en rodage. Je me suis dit, pourquoi rester là-dessus? Parce que c'est vraiment ceux qui se déplacent, qui payent la place de cinéma, qui, à la fin, sont la finalité de ce que va être votre film. Donc, eux, c'est très important de les écouter, en fait.
Ce que je retiens, en fait, c'est que tous les gens que vous venez de citer sont unanimement des artistes, exception faite au dernier cité.
Voilà.
Est-ce que, pour le coup, vous considérez Christophe Rocancourt comme un artiste?
Ah, ça fait tellement plaisir que vous dites ça, en fait. Parce que, je dis toujours, tel Victor Hugo est un génie dans son écriture, Christophe Rocancourt est un génie dans son art. Il en a fait un art. Il a poussé cette approche psychologique, cette machination, ce côté presque... bien entendu, il le dit, c'est pas le bon Dieu, c'est le diable qui est venu.
Oui, Michel Denisot dit cette phrase, Christophe Rocancourt, c'est un braqueur de cerveau.
Braqueur de cerveau, ouais, c'est ça.
Et j'ai relevé ça, j'ai trouvé ça assez, assez
c'est
incroyable.
Ça, mais il est ça, parce qu'il a... Les gens voient que l'escroquerie, mais moi, je n'ai pas de fascination pour l'escroquerie, j'ai aucune admiration pour l'escroquerie. Et vraiment, je souhaite à personne de se faire escroquer, vraiment. Mais je dois dire que j'ai une fascination de la façon avec laquelle il a monté ça. Et c'est le seul à avoir fait ça. Et surtout, comme il le dit dans le film,
quand vous dites qu'il a monté, il a scénarisé. En fait, on est très proche d'un environnement cinématographique, sauf que les conséquences... elles ne sont pas les mêmes, ouais. Mais le cheminement intellectuel, et je voulais vous entretenir de ça, je trouve que dans le film que vous restituez, il me semble qu'on perçoit aussi la progression d'un véritable scénario, avec une construction évidemment qui est un peu différente, mais l'énigme pourrait correspondre à un véritable scénario de film. Vous confirmez ça?
Oui, c'est ça. En fait, il n'y a aucune étape de sa vie qui ne pourrait échapper à une production hollywoodienne. Mais encore une fois, le grand problème qu'il y a eu avant pour laquelle les films sur lui ne se sont pas faits, où il n'y a eu que des reportages, etc., c'est qu'on parlait à sa place. On ne peut pas parler à sa place. Il n'y a personne, il n'y a pas deux Rocancourt sur Terre. Il n'y a personne qui peut parler à sa place. Et ce qui était très important, c'était de partir vraiment, même pas de lui, de ses parents, pour comprendre de là où il vient. Et c'était pas juste, ok, son histoire, elle s'arrête quand il sort de prison aux États-Unis. Ce qui était important, c'était tout l'après, la reconstruction. Comment est-ce qu'on vit quand vous avez cette étiquette qui dit l'escroc des stars, etc., alors que aucune star a été escroquée, on montre le casier judiciaire, on montre tout ça. Et aussi, son chemin de vie partout où il est passé, il fait 2 ans prison de la santé, on l'arrête avec des faux billets. Vous voyez ? Il est plongé dedans, il n'a rien à voir avec tout ça. Vous voyez ? Est-ce que moi, si j'avais eu sa vie, est-ce que peut-être je ne serais pas aujourd'hui Christophe Rocancourt ? Est-ce que moi, je n'ai pas aussi fabriqué Rocancourt ? Quand quelqu'un me dit « Oui, oui, monsieur, ne me parlez pas. »« Ah, vous êtes... Oh, mais oui, mais bien sûr. » Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on n'a pas fabriqué ça ? Moi, je faisais partie de ces gens-là. C'est pour ça que je dis beaucoup que ce film m'a décrassé l'âme. Parce que moi, je faisais partie de ces gens qui disaient « Attention, il a fait de la prison, méfie-toi. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, je me dis « Mais qui je suis, moi, pour juger quelqu'un qui a payé sa dette ?» Donc, c'est ce que j'espère que les gens qui voient ce film pourront se dire et également pourront comprendre que dans la vie, même si moi, j'y croyais pas au début, mais il y a vraiment des gens qui démarrent pas forcément sur la même ligne de départ que nous tous. Et ça, c'est quelque chose auquel je ne croyais pas. Je disais, non, c'est pas vrai, moi j'ai... Non, il y a toujours beaucoup plus malheureux que soi. Et puis ces gens qui n'avaient rien, imaginez, vous êtes dans les années 70, 80, le soir d'hiver, un mardi, au fin fond de la campagne, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a 3 chaînes de télé, il n'y a rien à faire.
Oui, surtout qu'on n'a pas évoqué, on va y revenir évidemment, mais son parcours familial d'enfant, il est évidemment... particulièrement chaotique, cabossé. Et donc forcément, cette réflexion que vous venez d'inclure dans cette conversation, elle est étroitement liée à ce parcours familial, pour citer les choses de manière un peu claire. Son papa travaille dans les dockers avec une vie relativement physique difficile. Sa maman fait le plus vieux métier du monde, comme Christophe l'explique dans son film. Et donc, évidemment, il y a des scènes de ménage dont il est témoin assez régulièrement dans le foyer familial. Et tout ça, forcément, ça sème un climat qui, intellectuellement, peut-être rend le personnage beaucoup plus mature qu'il ne devrait l'être. Et comme il dit, en fait, par moments, il a besoin de rêver, de penser à autre chose et de voir la vie et la société de manière différente.
Oui, ça fait plaisir ce que vous dites, vraiment. Vous avez une analyse vraiment très pointue et excellente du film. Ça me touche beaucoup, hein, vraiment, merci. Et ce qui est beau en plus dans ça, c'est qu'on aurait pu croire qu'un enfant qui a grandi, qui a vu de la violence, quand lui, il est père, il répète ça. Vous savez, on dit, on répète ce qu'on a vu. Vous voyez. Et en fait, il est tout l'inverse. C'est un papa poule. Il se réveille deux fois dans la nuit pour être sûr que les enfants dorment bien, qu'il n'y ait pas de. Il supplie sa fille de bien travailler à l'école, d'avoir des bonnes notes, d'avoir tout ça. Donc, il touchera jamais, il n'aura jamais un cheveu sur ses enfants. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, a beaucoup, beaucoup de. Il a appris sa leçon, il a vu les dégâts de l'alcool, il a vu les dégâts de la violence. Et aujourd'hui, il est contre ça. Mais en même temps, il avait ce côté de gentil. C'est un gentil, Christophe Bocconcourt. Mais en même temps, il avait les armes pour se défendre. Parce que justement, à cette époque, il a créé cet instinct de survie. Vous savez, vous imaginez, il a 16 ans. Il dort dans le métro. Vous imaginez les gens qui ont dû venir l'embêter à cette époque. Donc toute sa vie, il a dû se défendre. Et ce qui me fait vraiment de la peine, des fois, c'est de voir que il rentre en France, il a purgé sa peine, et là encore, il doit se défendre contre des gens qui lui disent « Vous êtes un sale type, vous avez fait ça, vous avez... » Oui, je l'ai fait, j'ai payé ma dette. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas la légitimité de raconter son histoire ? Vous voyez, quand on fait un film sur Zidane, est-ce qu'on démarre en lui disant « Le coup de boule ?» Vous voyez ce que je veux dire ? On peut en parler, ça fait partie de la chose. Il accepte, il le regrette, mais... Mais en même temps, je pense qu'il a non seulement le droit à la rédemption, mais il a obtenu sa rédemption. Et ces mêmes gens qui pourraient critiquer Christophe Bocconcourt, ces mêmes gens n'ont aucun problème à mettre une photo de Mao ou de Staline ou de regarder un film sur la guerre ou de regarder un film sur le loup de Wall Street. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est lui qui raconte, parce qu'il est français. Moi, ça fait penser à Napoléon, parce que je suis un fan de Napoléon, je lis beaucoup. D'ailleurs, j'ai redécouvert l'histoire de France. Tous les livres que j'ai achetés, après, c'était livres de Napoléon, parce que moi, j'avais pratiquement plus de livres. Et bien, vous allez dans le monde entier, on dit Napoléon, le génie, le machin. Vous arrivez en France, il casse sa statue, vous voyez. Donc, aux États-Unis, les gens connaissent Bocconcourt. Je veux dire, Bocconcourt, c'est
Oui, il y a une forme d'admiration. Par rapport finalement à l'histoire, quand on isole un peu, voilà, quand on isole un peu le côté factuel et qu'on observe ça de manière un petit peu narrative, on se rend compte quand même que l'histoire, entre guillemets, elle est assez incroyable. Et ça, les Américains, je pense que ça les a séduits. Oublié quand même d'évoquer quelque chose de très important, c'est qu'avant de faire le film, il faut avoir l'idée. Et il faut rencontrer le personnage. Ouais. Ça, je pense que c'est important que les auditeurs aient connaissance de comment cette idée, comment vous avez réussi à vous intéresser à Christophe Bocconcourt. Et j'ai cru comprendre que pour l'approcher, il y a un stratagème qui vous appartient bien à vous. Vous pouvez déployer
en fait,
tout ça, c'est intéressant.
Bien sûr, c'est une technique américaine, en fait. C'est que aux États-Unis, les avocats sont un peu comme des agents. Donc moi, j'ai toujours approché les avocats, même en France, comme des agents, en fait. Et donc, en fait, j'ai identifié qui
étaient... On dit des agents, c'est-à-dire des aides, quoi.
Des managers qui dirigent. Tandis qu'en France, il y a vraiment la distinction. Vous allez voir un avocat quand vous avez un problème légal, vous avez une question légale. Et puis, le manager, l'agent, c'est celui qui gère de vous trouver des offres, des contrats, etc. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai identifié qui était l'avocat de Bocconcourt, qui est Jérôme Boursican, qui est un avocat brillant, qu'on voit d'ailleurs en film. Et j'ai fait une séance avec lui, une consultation avec lui. Et je lui ai montré ce que je faisais. Et, Il a été tout de suite très réactif et dès le lendemain, il a contacté Jérôme parce qu'en fait, ils sont dans l'obligation après, quand vous envoyez une offre écrite à l'avocat, l'avocat est obligé de le transmettre. Et aux États-Unis, c'est pareil, en France aussi. Et donc après, il peut refuser, mais il voit. Et donc, il voit le travail et Christophe n'avait pas envie de faire un autre documentaire, un autre film. Il n'avait pas envie. Il disait non, c'est mal passé, j'ai eu du reportage qui était vachement à charge, j'avais pas envie de ça. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je ne suis pas journaliste. Pardon, je ne veux pas dire que les journalistes jugent, c'est pas du tout ça que je dis. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que je sois acteur, la mise en scène, etc. C'était la psychologie du personnage.
Et finalement, le narratif de l'intégralité du personnage.
Oui.
Parce que, effectivement, on a fait la lumière sur une partie, entre guillemets, de l'aspect un peu négatif du personnage. Mais à la finale, il y a souvent une explication aux choses. Mmh. Et là, je pense que vous avez voulu raconter, non pas finalement la partie lumière qu'il a portée très haut et puis finalement la descendue très bas, mais bien en amont, en fait, tout ce qui s'est passé d'un point de vue familial, etc. etc.
Mmh. Oui, en fait, c'était vraiment, j'ai divisé le film, je crois, en 12-13 parties.
D'accord.
Et j'ai voulu que toutes ces parties soit égal en termes de timing. Vous voyez, donc, je crois que c'était des parties de 5 minutes. Vous voyez, des volets de 5 minutes. À la base, c'était 12, mais je concentre, moi, vachement les choses essentielles. Parce qu'une phrase forte parle beaucoup plus que 5 phrases non pas fortes. Et lui, Christophe, justement, il a le don de la punchline, il a le don de la philosophie, que beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont connu l'enfer carcéral, qui ont connu la prison sur le long terme, ont cette philosophie. Vous voyez, je ne parle pas des petites voyous, de la petite contrebande qui attaque les grands-mères et qui brûle les voitures. Je ne parle pas de ces gens-là. Vous voyez. Mais les anciens, ces gens-là, j'en ai rencontré beaucoup, parce que Christophe en connaît beaucoup. Et d'ailleurs, il y en a un qui fait partie du film, qui est Daniel Bélanger, qui est une des plus grandes figures du grand banditisme. Et lui, pareil, une philosophie de vie où il dit « la peur n'évite pas le danger ». Quand il parle de l'adrénaline, quand il parle de… c'est quelqu'un qui a connu la cavale. Tout ça, donc il peut expliquer ce qui se passe aussi. Vous voyez, donc Christophe le dit, mais pour des besoins visuels, j'aime bien qu'il se passe toujours quelque chose. J'aime bien qu'on passe d'un truc à l'autre. Des fois, je vais un peu trop vite. Je pense que vous avez dit quelque chose et vous avez entièrement raison. Je vais un peu trop vite des fois, mais en fait, on est toujours inquiet quand on fait le film. Mais une fois qu'on voit qu'on est dans la salle, je me dis, ça va.
Alors, vous réussissez à le convaincre, et donc là démarre finalement cette histoire. Là, on est en quelle année ?
Ben là, on est en mois d'août 2023.
D'accord, donc c'est vraiment… Tout s'est accéléré très rapidement.
Ben non, parce que moi, je lui ai dit… en fait, lui, il était… Je ne sais pas si le mot « agacé », c'est le bon mot, mais il en avait un petit peu marre, où il vendait les droits, où il faisait… il signait pour des films qui ne se faisaient jamais. Vous voyez ? Et il y avait une demande pas possible. Alors, la plupart du temps, c'était lui qui disait « ça ne me convient pas », ou « l'histoire démarrait des États-Unis », ou « l'histoire était américanisée ».
Je vous interromps juste un instant, mais c'est important de le préciser.
Bien sûr.
Un certain nombre de grands réalisateurs américains que vous allez nous citer
ouais,
se sont intéressés au
Michael
dossier.
Michael Mann.
Ça, c'est, voilà, hein, le réalisateur
Michael
de
Mann
Hit,
est venu
évidemment.
Le voir
voilà.
En prison, aux États-Unis. Il y a Thomas Langman aussi qui est venu le voir en prison. Mmh. Et Thomas Langman, c'était le premier à voir… J'arrive pas à la cheville de Thomas Langman, hein, ça, c'est évident. Mais c'est, il a fait la chose. Et moi, j'ai toujours…
Vous avez parlé également de Martin Scorsese.
Martin, il a eu tout le monde. Il y avait Al Pacino, à un moment, qui était intéressé. Et en France, il y a eu Vincent Cassel. Il y avait tout un tas d'acteurs qui voulaient le jouer, le raconter. Mais… Il manquait quelque chose dans l'équation. Donc, soit par exemple, le côté Langman, c'était Edward Norton qui devait jouer son rôle, mais l'histoire partait de Edward Norton qui vient d'un patelin américain et qui arrive à Los Angeles. Donc, Christophe dit non, il n'y a pas la barrière de la langue, on est aux États-Unis, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la langue.
Oui, ça s'américanisait un peu trop, quoi.
Voilà. Ouais. Et d'autres. En France, c'était une histoire trop française. Mmh. Il n'y avait pas le rythme américain. Ils essayaient d'en faire un Jacques Mesrine. C'est deux personnalités complètement différentes. Mesrine, il prend le flingue et tue. Beaucoup, non, avec le cerveau. Donc et moi, je lui dis, regarde, moi, je signe avec toi, je tourne lundi. Peu importe le jour de la semaine où tu signes avec moi, le lundi, on tourne. Et moi, c'était tout de suite. Et effectivement, j'avais ironiquement deux films presque que j'avais commencé à tourner avant Rocancourt.
Et j'ai fait passer au concours avant. Donc là, j'ai deux films d'avance, en fait, qui sont faits, que je vais sortir plus tard. Un sur Christian Clavier, un où j'ai Jean Reno, Didier Bourdon, Philippe Lachaud, enfin tous les plus grandes stars. Et j'ai un sur Grégory Zaoui, qui est le cerveau de la fraude à la taxe carbone. Donc là aussi, je rentre dans un monde un petit peu, vous voyez, où il y a la prison qui rentre dans l'équation. Mais même si Zaoui et Rocancourt sont deux opposés, hein, complètement, hein. Zaoui, c'était l'État, vous voyez, c'était l'État. Donc, vous n'avez pas la personne en face de vous. Vous êtes devant un ordinateur. Rocancourt, c'est autre chose. Il y, y a un travail d'acteur, il y a un travail de jeu. C'est pour ça que je lui dis, mais ma première chose, c'était, moi, quand j'ai un rendez-vous, je le répète avant chez moi. Je répète les questions. Quand je dois appeler quelqu'un, une conversation importante, je note avant sur un papier. Voilà, quel est mon objectif, comme un acteur. Mon objectif, c'est d'obtenir ça. Voilà les questions, les points que je dois pas... Donc, je répète. Alors, je voulais vous demander, par rapport à la question, qu'est-ce que vous pensez que vous pourrez... Je répète, je m'enregistre des fois pour écouter un peu le ton que j'utilise, si je parais pas trop agressif, etc. D'arrondir un peu le truc, si... voilà. Et en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il dit non, je répète pas. Puis vous vous entraînez, vous répétez, il dit non, je suis dedans. Il vit dedans, le moment. Il dit si je répète, c'est faux.
Oui, je pense que c'est assez palpable dans ce c'est film. Faux.
Et tous les grands acteurs me disent si je répète, je suis plus d'entre eux.
Oui.
C'est faux.
Alors, donc, d'un point de vue technique, ce film, en fait, vous avez quasiment tout fait vous-même, pratiquement.
Ouais.
Sans rentrer trop dans le détail, ça coûte cher de fabriquer un film comme ça, hein?
Non, je peux vous dire dans le détail, non, ça, oh, c'est quelques centaines de milliers de dollars, mais ce n'est pas lundi, vous payez, vous voyez, ça s'étale sur plusieurs mois. Si moi, je devais payer un réalisateur, si je devais payer un monteur, si je devais payer plus de caméramans, parce que je suis sur place et tout, là, on est au million d'euros facile. Mais parce que je fais tout moi-même, tout seul, je cumule.
Oui, vous compactez les budgets.
Je compactais les budgets.
Et du coup, vous arrivez à vous en sortir finalement avec quoi, 100-200 000 euros le film?
Ouais, non, un petit peu plus, hein, quand même, autour des 300.
D'accord. Voyez. Qui est quand même un budget extrêmement modeste pour un long métrage.
Pour un long métrage, qui est un documentaire.
Oui.
Mais comme vous l'avez si bien dit, il y a plein de couches superposées.
Oui, il y a une hybridation. Il y a une hybridation, on peut parler vraiment...
C'est tard qu'on dit une hybridation.
Oui.
C'est magnifique.
C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait voir ça, si on pouvait métaphoriser par rapport à un plat, c'est un peu des lasagnes. C'est-à-dire qu'en fait, chaque étape correspond, étage, correspond finalement à une vision du film différente. Il y a une partie très documentée. On voit même des images de Christophe Rocancourt de l'époque. On y voit aussi une partie, je pense, il y a une poursuite à un moment donné où c'est une véritable scène de film. Alors ça, pour le coup, vous l'avez tourné avec des moyens, j'imagine, très cinématographiques.
Cinématographiques, mais en fait, beaucoup de cette scène, la scène, elle est simple. Hein, mais ce qui fait vraiment ce qui génère la dynamique, c'est le son. Et en fait, j'ai pris, les voitures, ce n'est pas des Ferrari, mais j'ai pris le son de Ferrari.
D'accord.
Et de Formule 1. Et en fait, j'ai superposé les voitures.
Vous avez
le son.
Vous avez créé votre lasagne.
Voilà. Parce que vous avez le son de la voiture qui fait... Et en fait, je l'ai doublé en changeant la note du main. Donc, j'ai fait...
Donc, le musicien, c'est aussi réglé.
J'ai mis plusieurs notes différentes. Il y en a un, je l'ai chargé en aigu, l'autre, je l'ai chargé en grave. Et en fait, ce que je me suis habitué, c'est que vu que j'ai l'audio qui est très
développé,
je fermais les yeux et j'écoutais au casque. Est-ce que j'arrive à comprendre qu'il y a une voiture qui est passée devant moi, comme ça? Est-ce qu'on sent à un moment le vent? Donc, je rajoute un peu de...
Alors, je dois avouer que le son, qui à mon avis est un élément prépondérant dans un film... Pour le coup, je l'ai fortement distingué, parce que dans votre film, en fait, le son est un acteur à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, il vient absolument habiller certaines scènes, où finalement, la scène en elle-même, elle est assez simpliste. En revanche, le son vient générer une sorte de triangulation, et émotionnellement, on est dans autre chose. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne parfaitement.
Et c'est pareil quand il y a la course-poursuite avec, là, quand il se retrouve dans le parking de la police, alors ça c'est complètement fou, c'est, il est en fuite, il a les gangs derrière lui, il défonce une porte de parking, il rentre avec un flingue et il y a des voitures de police avec les shérifs en face de lui et lui il alarme. Donc enfin, c'est complètement fou, l'endroit où il ne fallait pas être, quoi, c'était vraiment ça. Et là pareil, là je passe du noir complet à l'image, boum. Noir complet, image, noir complet, image. Et je le divise en séquences, vous voyez. Et, ça, et après, je superpose. On voit lui, aujourd'hui, avec les mains droites. Et je mets dessus les lumières de la police pour comprendre la folie qu'il y a derrière. Et la musique presque tribale. Et ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à que ça s'arrête. Et après, tout de suite, boum, la réalité. Les photos, les mugshots, c'est-à-dire les photos... quand vous êtes arrêté avec le nom, le numéro de casier, etc. Avec la date exacte. Et lui qui raconte tout ça. C'est vraiment... J'aurais jamais pu faire ce film si avant j'avais pas fait tous les films que j'ai eu avant. Parce que tous ces films-là m'ont amené à arriver à faire ça correctement. Et je dois dire, depuis que j'ai fait ce film Reconcours, j'ai plus peur de rien. En tant que monteur, en tant que réalisateur, même j'ai fait l'étalonnage, moi qui ai dû apprendre à le faire. Et pareil, je vais dans les salles, je dis, tiens, là, la couleur, j'aime bien. C'était quoi le réglage? Ok, c'était ça, ok, d'accord. Et des fois, les gens me disent, mais attends, il est en journée, mais t'es un peu sombre. Je dis, oui, mais ce qu'il dit est sombre.
D'accord. Vous voyez, donc vous analysez de manière très technique.
Voilà.
Vos observations deviennent maintenant, pour le coup, des outils pour vos futures productions.
Ouais, complètement, voilà. Complètement.
J'imagine que Christophe a vu le film, bien entendu.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il en a pensé?
Alors, je vais vous dire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, déjà, il ne m'a jamais mis une seule directive. Il ne m'a jamais dit qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il ne voulait pas dans le film. Et surtout, il ne m'a jamais dit non, retire ça, mais pas ça, ou parle plus de ça, ou tiens ça, tiens. Jamais, 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 jamais. J'ai toujours été tout seul à faire le truc. Donc je vais montrer un premier squelette en janvier, et puis en février, un truc un petit peu plus déjà rempli. Et puis après, je vais juste montrer la première minute, certains rêves de plusieurs vies. Un homme a choisi de toutes les vivre. Il a adoré cette phrase. Et je dis, et après, Reconcours, boum. Et après, le reste, il l'a découvert à la première, le 3 avril. Et il est sorti, il m'a dit, et tout le monde est venu me voir, là, soit l'avocat, tous ces gens-là, ils m'ont dit, mais David, parce qu'il y a une émotion à la fin auquel on ne s'attend pas. Et il y a un message à la fin auquel on ne s'attend pas. Personne à ses enfants...
On ne dévoiler surtout pas.
On va pas dévoiler. Mais il y a un message qui, à la fin, boum, vous prend. Et je vais même vous faire une petite confidence. J'ai eu l'idée hier, mais c'était trop court pour le rajouter pour la séance d'aujourd'hui, parce que ça prend 8 heures pour ingester le DCP. Mais pour demain, ça va y être. Et toutes les autres séances, j'ai rajouté la chanson avec le temps. Parce qu'il dit, Léo Ferré dit, ces pauvres gens... ne prends pas froid, etc. Et ça, imaginez que vous n'avez pas connu qu'un parent vous dit « prends pas froid », vous voyez, des choses qui nous embêtent quand on est enfant, vous voyez, le goûter, non, mais c'est bon, et j'ai rajouté cette chose parce que c'est le temps avec lui qui est, on ne sait pas si c'est son ami ou si c'est son ennemi, vous voyez, et j'ai trouvé, avec le temps, tout s'en va, et en même temps, on voit son image, qui va vers le noir, qui s'en va.
Est-ce que pour lui, finalement, ça a été une forme de thérapie?
Le film?
Oui.
Je pense que oui. Je pense que oui, même si lui, il dit qu'il ne rend de compte à personne. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la lumière. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui souhaite se justifier ou qui est dans le politiquement correct, entre guillemets, parce qu'il a une certaine image, etc. Lui, pas du tout. Lui, il l'a fait, sa vie, son épopée, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que, contrairement à un acteur ou un chanteur qui revient avec un nouvel album ou qui revient avec un seul film, un nouveau film, lui, il a eu une histoire. C'est pour ça que cette histoire, elle était très précieuse. Et moi, vraiment, je me suis vraiment attentionné à cette histoire. Mais Dieu fait partie de toute sa vie. Depuis son enfance, déjà dans les jésuites, il est baptisé et surtout...
Il évoque très souvent Sainte Thérèse,
voilà.
Qui était en fait une sœur qui que vénérait son père, et il y a eu une sorte de transmission très clairement établie dans le film. Ouais. Et ça, il l'évoque de manière très concrète.
Et il l'évoque, et puis même...
Et il l'évoque pour les générations d'après.
Il évoque aussi, et puis en même temps...
pour son fils.
Il a ce rapport quand il est dans la caravane, qui vit avec ses parents, et que c'est l'abbé Renard qui lui amène à manger. Ouais. Donc en même temps, il y a ces gens aussi, ces prêtres, ces curés, qui aident aussi les pauvres. Et ils n'avaient rien. Et donc, il répète deux fois la phrase, d'ailleurs, que je le garde dans le film. On était pauvres, on n'avait rien, nous. On n'avait rien. Mmh. Vous voyez, et c'est très fort qu'il le répète plusieurs fois, mais avec des couleurs très différentes.
Ce que je retiens, en fait, de Christophe Rocancourt, c'est que ça reste quand même un personnage un peu de type dandy. Pour moi, c'est un dandy. Ouais. C'est un Arsène Lupin, en fait. C'est quelqu'un qui reste particulièrement élégant.
Extraordinaire.
Y compris dans des situations qui sont très équivoques, en fait. Je trouve que le mot violence, chez lui, il a une résonance qui est plutôt d'ordre passif.
Et surtout, une violence psychologique.
Psychologique, voilà.
Hein. C'est surtout ça.
Quand je dis passif, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de physique dans sa façon d'être. Le mot violence, effectivement, passe par la psychologie, où là, évidemment, c'est un terrain de jeu extrêmement important pour lui. Ouais. Et il en a fait la démonstration à plusieurs reprises. Ouais. On vient de parler de ce film, évidemment, qui est une étape dans votre carrière professionnelle. Derrière ça, vous avez peut-être l'intention d'enchaîner avec des choses peut-être plus ambitieuses ou ça restera toujours des sortes de portraits comme
ça. Là, il y a des portraits. J'ai une idée d'un.
Peut-être vous aventurer sur des productions un peu plus ambitieuses.
Non, mais d'abord, le documentaire, c'est ce qui est le plus dur. Parce que vous ne savez pas ce que la personne va dire. Donc, c'est tellement plus facile d'écrire et de dire tiens, tu dis ça, et de construire l'histoire. Parce que c'est un vrai puzzle, le documentaire. Il faut que la phrase, elle aille avec ça, qui aille avec ça, qui aille avec ça. Donc, moi, je pensais que c'était plus facile. C'est tellement plus dur. Non, j'ai quelques séries d'actions là en tête, un film d'action, mais mélangé avec
de la réalité.
De la réalité. Vous voyez, je pars d'un film sur le Mossad.
Une sorte de docu-fiction.
Ouais, sur les services secrets du Mossad, où on mélangerait des archives, des trucs d'époque et tout, avec une histoire réelle aujourd'hui. Moi, j'aime un petit peu le nouveau et l'ancien.
Alors, à la radio du cinéma, il y a une petite tradition, et je vais me permettre de vous la soumettre.
Avec plaisir.
Donc, on arrive au terme de cette interview, et à chaque fin d'interview, je demande à la personne, l'invité, qu'il me cite son film préféré. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me citer votre film
plaisir.
Préféré
J'ai envie de vous dire, c'est celui sur lequel je suis en train de travailler. Donc, je ne vais pas être très original. Aujourd'hui, mon film préféré, c'est vraiment Rocancourt. Avant, il y a des films comme Goodfellas, comme Casino, où il y a vraiment de tout dedans.
Si vous deviez partir sur une île déserte avec un seul film, vous amèneriez lequel?
Je pense que je prendrais... peut-être les Affranchis, Goodfellas.
On t'a jamais dit d'aller te faire foutre, Tommy?
Genre les oreilles qui décollent, c'est pas vrai Spider, t'as pas pu dire ça. Tiens, c'est pour toi, quel mec. Grand respect pour ce gosse. Putain, faut en avoir un paquet dans la culotte. T'es dans le vrai fiston, faut se laisser emmerder par personne. Ah merde, il lui tire dans le pied, il lui dit d'aller se faire foutre. Et enfin, tu vas pas le laisser s'en tirer comme ça. Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve, on se demande où va le monde.
Voilà, t'as vu où il va le monde? Ça te la coupe, hein?
Vous voyez, il y a pareil, il y a ce chemin de vie un peu à la Rocancourt, avec cette chute à la fin, et à vouloir trop gagner, on finit par perdre sa vie. Donc c'est vraiment tout. Rocancourt est dans toutes les histoires.
C'est pas faux. Alors, pour faire un bon film, je pense que le son, c'est quelque chose qui vous est très cher. Et donc, du coup, je vais vous demander s'il y a une musique que vous affectionnez ou un compositeur que vous affectionnez en particulier.
Ennio Morricone, c'est ça?
Bien sûr.
Ouais, lui, je dirais. Et puis, il y a cette musique pour moi dans le professionnel. Je me souviens quand Belmondo, qui était mes héros, qui meurt et qu'il est abattu tout, avec la mitraillette et qu'il est par terre et que l'hélicoptère part, là, je me souviens, pleurer. Puis c'est mon enfance, donc ça me rapporte même beaucoup.
C'est ancré.
Ouais. Il y a Liste de Schindler aussi. Plus la musique que le film. D'accord. Pour moi, la musique, elle parle encore plus que le film. Bien sûr, le film bouleversant, mais la musique, elle
est un acteur à part entière.
Ah, ouais. Extraordinaire.
Et donc, pour terminer cette interview, je vais vous demander votre réplique culte, vraiment celle qui ne vous échappe jamais.
Ouais. Ben ça, j'ai envie de dire, de Christophe Rocconcourt, il dit « Ne me jugez pas, les tribunaux s'en sont déjà chargés. » Et ça me sert même pour d'autres rôles, même quand j'ai joué Cyrano. « Quelle folie !» Et il dit « Oui, mais quel geste !» Voyez. Donc c'est ça, « Quelle folie, oui, mais quelle vie, quel geste, quel résultat !»
Ben écoutez, je vous remercie infiniment.
C'est un honneur, merci à vous. Et je tiens à vous remercier vraiment, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews. Je ne dis pas ça sur un point de vue trop prétentieux, mais vraiment, je n'ai jamais eu d'interview avec des gens aussi pointus que vous dans le cinéma qui ont une telle analyse du film. Et surtout, on oublie, c'est que vous venez aux projections. Et ça me touche beaucoup, donc merci à vous.
Merci infiniment.
Merci mille fois.